16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et surtout sans l'interpréter d'une quelconque manière. Oui, à ceux qui s'imagineraient qu'on est un peu orienté, un peu parti pris sur certains sujets ou périodes de l'histoire, à ceux qui se figureraient qu'on est nostalgique de telle ou telle époque, nous leur offrons chaque après-midi un cruel démenti, car avec Stéphane Bern, l'ami des princes et défenseur du château, nous sommes ravis de vous accueillir chaque après-midi dans ce studio.
Par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
Bonjour Messire.
Bonjour la fripouille. Bonjour à tous. Alors, décidément Mathieu, vous n'êtes pas un enfant de cœur.
Non.
Contrairement à nos personnages du jour, ils ne vivaient pas à la même époque, mais si ça avait été le cas, ils auraient pu se croiser à la messe. Car oui, cet après-midi, ce sont des enfants de cœur que l'on réunit. Des enfants de cœur qui ont grandi et qui ne l'ont pas été toute leur vie. D'abord, la reine de la Soule, Aretha Franklin. Aretha Franklin qui a commencé à chanter dans la chorale gospel de l'église de son papa avant que sa voix n'inonde le monde. Je vous raconte son destin à l'occasion de la sortie aujourd'hui dans les salles du biopic Respect. Puis lui aussi a été enfant de cœur avant de devenir surtout un immense écrivain. Le commissaire Maigret évidemment, mais pas seulement, vous verrez. Je vous raconte Georges Simenon. Enfin Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'un enfant de cœur qui, lui, n'est pas mort.
Pas physiquement en tout cas, même si politiquement oui un peu. Je reviens aujourd'hui sur le destin de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui oui a donc été aussi enfant de cœur, dans son enfance bien sûr, mais peut-être aussi au moment de la dernière primaire du PS, si on réfléchit bien.
Ils réfléchissent encore énormément. Ce sont nos chroniqueurs qui forment notre chorale à nous. Bon, c'est pas une enfant de cœur, hein. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs. Eh bien écoutez, moi j'avais aussi envie de parler musique aujourd'hui. Alors, je me suis penchée sur certains des souverains les plus sanglants de l'histoire de l'Angleterre, Henri VIII, Marie Tudor, Élisabeth Ière, qui étaient de très grands mélomanes et qui adoraient pousser la chansonnette entre deux exécutions capitales. Alors, on prétend que la musique adoucit les mœurs, c'est pas forcément toujours le cas, vous verrez.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce jeu de société. Est-ce que tout le monde le connaît? C'est le Jungle Speed.
Moi, j'ai cru que c'était une drogue. Le Jungle Speed, je me dis, il nous parle encore de drogue.
J'avoue que je ne sais pas ce que
c'est. Le Jungle Speed, c'est vous savez, il faut saisir un totem le plus rapidement possible quand il y a deux cartes identiques qui sont sur la table. Personne n'a joué à ça, c'est pas possible.
Non, vous êtes le seul à connaître ce jeu.
C'est un jeu portugais. Ça m'étonne de vous, parce que nous, on est la même génération, donc normalement, vous avez dû y jouer.
J'étais pas jeu de société, moi.
Mais moi non plus, mais il y a des fois, il y a des gens, il se trouve qu'on est dans une soirée.
Moi, c'était Action Vérité.
Action, bah oui. Bien sûr. Donc les origines de cette chose que personne ne connaît autour de la table.
En fait, quand on écrira votre biographie, David, on s'apercevra que vous avez eu une enfance terrible quand même.
Et ainsi que 8 millions d'autres personnes qui ont joué au Jungle Speed.
Avec nous également Olivier Pouls. On remonte aux origines d'une mode culinaire, d'un plat ou d'une recette.
Oui, alors pas vraiment de plat ou de recette aujourd'hui, mais je voulais coller à l'actualité cinématographique. Aujourd'hui sort un film absolument remarquable que je vous engage à aller voir, qui s'appelle Délicieux, qui raconte l'histoire d'un des premiers restaurants en France au moment de la Révolution. Et j'en profite pour...
C'est lequel, le Grand Véfour ou c'est le Procope?
Alors, moi je vous raconterai tout à l'heure l'histoire du vrai premier restaurant en France et à Paris, qui n'est ni le Grand Véfour,
moi, c'était
ni
le Procope. Mais vous n'aviez pas l'air d'accord.
Ni le Procope.
C'est lequel alors?
Eh bien, vous le saurez tout à l'heure.
C'est le suspense, Stéphane, sinon on reste pas.
Ok, bon, je suis obligé d'attendre la fin de l'émission.
Oui, vous êtes obligé, Stéphane. Mais enfin, c'est le moment le plus drôle de cette émission pour vous, le plus terrible pour eux, le quiz Burn to be Alive. Chaque jour, Stéphane et Clémentine, nos champions de l'histoire, s'affrontent.
Faut pas exagérer,
et c'est souvent l'occasion de moments embarrassants, comme lorsque Clémentine ne se souvient plus de la réponse à une question qu'elle a elle-même formulée dans un de ses livres.
Merde.
Essayez au moins de vous souvenir ce que vous avez écrit dans vos bouquins respectifs. Quand même. Mais pour commencer, découvrons notre premier récit du jour. Elle impose le respect, le respect même. Avant d'être célèbre dans le monde entier, c'est à l'église qu'elle a commencé à chanter. Stéphane Bern nous raconte Aretha Franklin, la reine de la soul.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
La reine de la soul. Un titre dont personne n'oserait déchoir Aretha Franklin, tant son talent est unanimement reconnu. Son talent et surtout sa voix puissante et nuancée, qui est capable des plus voluptueuses et virtuoses modulations. Une voix couvrant pas loin de 5 octaves, qui parvient à transmettre avec chaleur les plus pures émotions. Mais d'où vient ce génie? Où Aretha Franklin puise-t-elle cette ardeur exaltée qui lui permet de transporter son auditoire à chaque représentation? Et si c'était auprès de Dieu? Car ce n'est pas au conservatoire qu'Aretha Franklin a appris à chanter, mais bien à l'église. Et pas n'importe laquelle, celle de son propre père. Si elle est née en 1942 à Memphis, dans le Tennessee, Aretha et sa famille déménagent rapidement vers le nord du pays, à l'instar de millions d'Afro-Américains qui fuient la ségrégation raciale imposée dans les États du Sud. C'est à Detroit, ou Détroit, que la famille Franklin s'installe finalement et que le père Clarence Lavone Franklin, pasteur de son État, prend la direction de l'église baptiste de la ville. Ses prêches frénétiques font du révérend Franklin une véritable star au point que ses sermons sont gravés sur disque et vendus à travers tout le pays à qui veut bien l'entendre. Et ils sont nombreux. Très tôt donc, la petite Aretha et sa fratrie baignent dans un environnement musical singulier, celui du gospel que l'on chante pendant les offices et que leur mère pratique avec brio. Une mère qui n'aura malheureusement pas vraiment le temps de leur apprendre grand-chose puisqu'elle quitte tôt le foyer, fatiguée par les frasques d'un mari tout aussi volage que ses lèvres, et meurt peu de temps après. Aretha et ses sœurs intègrent très jeunes la chorale de l'église. Le pasteur Franklin décèle dans la voix d'Aretha quelque chose de spécial et décide de lui faire une place. Elle sera soliste et se perfectionne en suivant son père dans ses tournées de prédication. Cette voix magique, c'est donc par le truchement de la foi qu'elle s'affirme. Le gospel, hérité des chants de ses ancêtres esclaves, permet à la communauté afro-américaine de chanter ses doutes, sa révolte et ses souffrances, transcendées par l'amour divin. Forte de son talent et encouragée par son père, Aretha enregistre son premier disque « Song of Faith » en 1956 et se fait un petit nom dans le milieu du gospel. À l'église, Aretha se construit aussi une conscience politique. Son père a fait de la New Bethel Baptist Church, où il officie, l'un des foyers de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains. Aretha voit dès sa jeunesse défiler les plus ardents défenseurs de sa communauté, dont un certain Martin Luther King, qu'elle côtoie de près puisqu'il loge au domicile familial lors de ses passages dans la ville. C'est donc une femme jeune mais de conviction, la foi, l'amour du chant et la lutte contre l'injustice ancrée en elle, qui décide à 18 ans de se lancer à corps perdu dans la musique. Elle s'installe à New York et débute une carrière de chanteuse, loin des prêches et de ses camarades enfants de cœur.
Here is Miss Aretha Franklin.
Elle donne d'innombrables représentations et enregistre plusieurs albums aux accents jazz et pop. De l'intensité éloquente du gospel, elle glisse avec grâce dans les musiques plus rythmées et parfois plus intimes, notamment avec des ballades qui chantent souvent des amours déçus. Elle se fait un nom mais ne connaît pas encore la consécration qui arrivera comme une explosion quand elle changera de label pour signer chez Atlantic Records, qui défend une soul plus brute, engagée et fiévreuse. Les musiciens et témoins de la première session d'enregistrement font tous part du même sentiment d'admiration quand ils virent cette petite dame s'installer au piano, qu'elle a appris en autodidacte, et plaquer quelques accords avec l'assurance d'une grande. Et nous touchons ici à ce qui fait la force d'Aretha Franklin. Si elle compose peu, elle sait s'approprier les morceaux qu'elle interprète avec un sens particulièrement aigu de la musicalité. En studio, elle gère les arrangements et décompose la trame mélodique pour l'adapter à son goût et au message qu'elle veut porter. En mars 1967 sort donc son premier album chez Atlantic Records. Le premier titre est une reprise d'un morceau d'Otis Redding dont Aretha Franklin modifie légèrement les paroles. Ce qui était une ballade évoquant des déboires de mystique devient dans la bouche d'Aretha Franklin un fougueux chant revendicatif qui réclame le respect. Celui dû aux femmes, celui dû aux hommes, quelle que soit leur couleur de peau. La chanson devient, selon les mots de la chanteuse, un cri de ralliement du mouvement pour les droits civiques et trouve un écho tout particulier en cet été 1967 qui voit sa ville de Détroit secouée par 5 jours d'émeutes raciales. Aretha Franklin se transforme en icône, en porte-drapeau du combat pour l'égalité. L'année d'après, elle chante d'ailleurs aux funérailles de Martin Luther King qui vient d'être assassiné. Aretha Franklin est désormais célébrissime aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Elle décroche son premier Grammy Award en 1968. il y en aura 18 au cours de sa carrière et fait la même année la couverture du Time, une première pour une femme noire. Dès lors, son aura ne s'estompera jamais. Contrairement à d'autres artistes, elle sait embrasser totalement les évolutions musicales de son époque, s'immisçant même dans des sonorités hip-hop ou R&B dans les années 90, collaborant durant toute sa carrière avec les artistes les plus variés de George Michael à Lauryn Hill, de Luciano Pavarotti à Elton John, ne cessant jamais de justifier son statut de reine de la soul. Une reine jamais détrônée malgré, vous allez voir, les frasques d'une vie qui aurait pu faire oublier que tout commença à l'église. Si elle a la foi chevillée au corps depuis qu'elle a chanté le gospel dans son enfance, Aretha Franklin a tout de même su très jeune s'autoriser quelques entorses aux évangiles. Contrairement au précepte baptiste du pacte de pureté jusqu'au mariage, elle donne naissance à son premier enfant à l'âge de seulement 13 ans, en 1955. Il s'appelle Clarence, comme son père. Puis, au second, 2 ans plus tard, avec un certain Edward Jordan, qu'elle ne revit quasiment jamais et dont l'identité est révélée dans un testament retrouvé en 2019, 1 an après la mort de la chanteuse. Un goût de la sensualité découvert tôt donc, et qui ne se tarira que bien plus tard pour celle qui fut 4 fois mère et 2 fois divorcée, optant toujours pour l'autonomie et la liberté face à l'ennui ou même à la violence conjugale qu'elle subit. Et les plaisirs de la chair sont loin d'être les seuls dont elle a su jouir, quitte à se perdre dans les addictions, alcool et tabac notamment. Des addictions qui ont certainement participé à une image de diva colérique, qui passait, à en croire certains, des concerts agrippés à son sac à main rempli de liasses du cachet du soir qu'elle exigeait avant même de monter sur scène. Signe pour certains d'un goût malsain pour l'argent, pour d'autres d'une volonté de ne pas se laisser abuser comme le furent nombre d'artistes noirs avant elle. Ses robes excentriques, ses perruques et parures de bijoux précieux dont elle changeait aussi rapidement que d'avocat ont en tout cas assis la figure d'une diva, mais qui s'efface toujours derrière sa propension à toucher son public, si souvent ému aux larmes. Passer du gospel à la soul, que certains, à l'époque, jugeaient licencieuses, chantaient les évangiles autant que des thèmes profanes, anodins ou sulfureux, la vie musicale d'Aretha Franklin incarne dans un sens l'histoire de la musique afro-américaine, faite de transgressions et d'affranchissements. Mais dans sa soif de liberté, elle n'oublia jamais le gospel qu'elle chantait dans son enfance. Elle en fit même un disque en 1972. Amen. Amazing Grace, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, un record pour ce genre de musique. Et comme une résurgence de ses débuts d'enfant de cœur, quand elle chante l'amour dans son tube I Say A Little Prayer For You, c'est bien une prière qu'elle promet à l'être aimé.
Et pour continuer à parler d'Aretha Franklin, Stéphane, nous avons le plaisir d'accueillir la réalisatrice France Wimberg. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour France Wimberg. Vous êtes réalisatrice documentaire, notamment Aretha Franklin, Soul Sister, qu'on peut voir ou revoir sur le site arte.tv. Vous avez tourné ce documentaire à Detroit, là où Aretha Franklin a vu le jour, mais là aussi où malheureusement elle est décédée. Aretha a fait le tour du monde grâce à sa musique, mais elle avait vraiment des attaches particulières avec cette ville des États-Unis.
Très particulière. Déjà, elle y a vécu quasiment toute sa vie. Ce qui est exceptionnel pour une star de son envergure, les Stevie Wonder, Diana Ross sont partis à Los Angeles, à New York. Elle est partie brièvement, mais elle est toujours revenue vivre à Détroit. Elle a toutes ses amies, sa famille. Et puis, elle a quelque chose qui lui ressemble dans cette ville, qui l'a façonnée, c'est-à-dire la résilience. Vous l'avez évoqué, elle a pris quand même un certain nombre de coups dans la figure et elle a cette capacité à se relever qui est ce que les gens de Détroit disent avoir en eux, puisqu'ils ont vécu les émeutes, les crises, etc. Et la devise de la ville, c'est « nous renaissons nos cendres ». Je crois que ça, c'est Aretha. Et l'attachement de la ville est réciproque. Quand elle meurt, toute la ville est là. Il y a 100 Cadillac Rose qui viennent lui rendre hommage parce qu'elle avait une chanson sur une Cadillac Rose. Il y a 3 jours de funérailles. C'est absolument comme si le symbole de Détroit avait disparu.
Stéphane l'a raconté dans le récit. Son père, c'était un pasteur très célèbre. Il enregistrait même des disques de ses prêches, comme on peut l'entendre dans votre documentaire. « Quelle place a tenu ce père dans la vie, la carrière d'Aretha Franklin finalement, sachant que c'est lui quand même qui l'a choisi en tant que soliste dans la chorale.
C'est lui qui l'a choisi. Tout à fait. Il l'a choisi en tant que soliste. Il l'emmène en tournée. Donc elle fait ses premières tournées à l'âge de 14 ans. Et il a un rôle fondamental. Il continuera à l'encourager à faire une carrière solo, un peu à la manager entre guillemets jusqu'à un certain âge, jusqu'à la période Columbia. Et puis surtout, il est la figure tutélaire. C'est un showman. C'est-à-dire que c'est pas du tout le pasteur. C'est pas le curé de campagne. Hein. Donc on est vraiment les pompes en croco, le costard trois pièces. C'est un flambeur. C'est vraiment cette voix que vous avez entendue. C'est vraiment ce qu'on le surnomme l'homme à la voix qui valait $1 million. C'est pas pour rien. Et puis le sermon, pas celui-là qu'on a entendu, mais un autre. C'est le sermon le plus vendu de tous les temps sur album. Donc c'est vraiment et donc elle hérite aussi de ce côté très showman. Bête de scène.
Mais est-ce que Aretha Franklin a pris des cours de musique ou de chant, ou est-ce que son école, c'est vraiment l'école du gospel, de la chorale à l'église?
Tout à fait. Elle a pris que ce soit le piano, parce que c'est une grande pianiste.
On en parle moins, mais
elle est autodidacte, et le chant, c'est pareil. Alors effectivement, elle a des figures comme Maya Jackson. Vous parliez de Martin Luther King qui vient dans la maison des Franklin, mais à chaque fois que Maya Jackson ou Dinah Washington, qui sont quand même deux immenses chanteuses, font escale à Détroit, elles habitent à la maison. Donc déjà, là, quand même, elle baigne dans une... Elle a des références, et effectivement, sinon, c'est l'église, et c'est là qu'elle apprend toute cette dramaturgie qu'on a dans les sermons, c'est-à-dire cette façon de tenir la cadence, les silences, de maintenir un autre... Enfin, ce qui est théâtral, finalement, dans un sermon, elle le tient de là. Et puis aussi, ce qu'on appelle le call and response, qui est dans quasiment toutes les chansons d'Aretha que vous avez fait écouter, c'est-à-dire, elle chante... Les choristes répondent quelque chose comme un petit peu un contre-chant, et ça, c'est quelque chose de l'ordre du sermon qui est hérité directement de l'Église noire.
Et est-ce qu'elle est restée pieuse tout au long de sa vie? C'est quoi son rapport à la religion par la suite?
Très pieuse. Elle continue effectivement à pratiquer et à chanter le gospel tout au long de sa vie. Vous avez parlé d'Amazing Grace qu'elle sort en 72, qui est l'album de gospel le plus vendu de tous les temps. Elle enregistre un autre album dans l'église de son père dans les années 80 avec la pochette, c'est les cierges, enfin l'autel de l'église. Et puis elle continue à maintenir justement cette paroisse de quartier même après la mort de son père, a organisé par exemple tous les à Noël des espèces de repas gargantuesques à la Aretha, parce qu'elle cuisine beaucoup pour tous les gens défavorisés du quartier. Donc elle reste très pieuse. Ouais.
Alors on le dit, elle a gardé une très grande foi au fil des années. Eh ben elle n'est plus tout à fait une enfant de cœur. Je l'ai raconté, elle a été enfant mère à 13 ans. Plus tard, il y a eu les addictions, l'alcool, la drogue. Elle a tout l'accoutrement d'une star du rock, d'une pop star d'aujourd'hui, mais avec ce côté foi et enfant de cœur.
Mais c'est vrai que c'est une rockstar. Alors peut-être que ça choque plus parce que c'est une femme, mais je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est, elle picole, elle fume beaucoup, elle a des conquêtes, pas des mariages pas toujours très heureux. Après, sur la partie de maternité, ça, je sais pas, de savoir si c'est vraiment quelque chose qu'elle a choisi aussitôt aussi jeune, mais sur le reste de sa vie, oui, elle est comme ça. Et puis elle a pas des caprices, mais elle a des envies, quoi. Elle décide que c'est comme ça, qu'elle fera ci, qu'elle fera
mais
pas ça.
Mais elle y voit pas de contradiction entre sa foi profonde et sa pratique de la religion et cette vie un peu...
Elle n'est jamais allée se confesser, c'est ça que vous demandez. Elle est très choquée, lui, par cette vie un peu dissolue.
Tout est resté dans le secret du confessionnal, je n'ai pas d'informations.
Il y a eu beaucoup de grandes voix soul aux États-Unis notamment. Qu'est-ce qui fait qu'Aretha Franklin est devenue la reine? Qu'est-ce qu'elle avait en plus? C'est son tempérament, c'est sa technique vocale, c'est, selon vous, qui la connaissait bien?
Bah, c'est comme un génie de l'interprétation, quand même. Moi, je trouve, plus on se plonge dans son œuvre, plus on se dit, mais c'est quand même incroyable, malgré ces trois paquets de cigarettes quotidiens, la tessiture, là. Ce que m'ont raconté des universitaires, parce que j'ai interviewé dans le film, c'est qu'elle est jamais, elle invente un peu la vibes avant la vibes. C'est-à-dire, toutes ces Mariah Carey, ces Whitney Houston, enfin, toute cette façon de mettre en gros, la note est au milieu et d'aller gesticuler autour. À chaque fois qu'elle le fait, c'est classe. Mm-hmm. C'est jamais tarte. Et donc, je pense qu'elle a vraiment quelque chose. Et encore une fois, de tenir le public en haleine. Elle a effectivement ce côté diva, mais qui est assez rock'n'roll en même temps. Mm-hmm. Elle est en vison, puis en dessous, elle est en jogging. Elle s'entête à porter des robes hyper moulantes alors qu'elle déborde, mais elle s'en fiche. Donc, elle a ce côté, elle a un capital sympathie. Mais plus sérieusement, ce qui fait qu'elle va exploser, c'est qu'elle a la chanson au bon moment, qui est Respect, et qui est pas un tube, qui va devenir un hymne. Et ça, c'est assez rare dans la carrière d'un chanteur. Ça va cristalliser toutes les aspirations de l'époque. Les noirs, les blancs, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde va avoir envie de va en faire un mantra, en fait.
Mais elle a du tempérament, on l'a dit, et elle en fait la démonstration en quittant sa première maison de disques d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Columbia ?
Mais Columbia, en fait, ils veulent la faire entrer dans un moule. Ils veulent en faire la Barbra Streisand noire. Donc, qui chante bien, en petite robe, le chignon. Bon, et ça va pas. Et en chantant des bleuettes, le ciel est bleu et tu me manques. Et voilà. Ça va pas du tout arrêter, en fait, parce que elle rentre pas dans le déborde largement du costume. Et elle a effectivement, elle va se retrouver plutôt dans la soul un peu plus puriste d'Atlantic Records et de Edgar Wexler.
Sur le côté engagé d'Aretha Franklin, il y a aussi cette facette-là chez elle. On a parlé, Stéphane l'a mentionné, son rapport avec Martin Luther King. C'était quoi, alors? Elle avait, on peut parler de relation avec Martin Luther King ou c'était
familial?
Familial.
C'est j'étais vraiment, pote. Il est très très proche de son père. La première fois que Martin Luther King fait le discours I Have a Dream, c'est à Détroit, à la demande de C.L. Franklin, juste avant d'aller à Washington, celui qu'on connaît. Donc ils sont très très proches. Et lui, très militant, C.L. Franklin, donc il partage cette cause-là. Aretha va chanter pour soutenir le mouvement des droits civiques financièrement et pour le populariser. Donc elle a une relation très 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 très. Elle chante à son enterrement. Enfin, c'est toute une relation suivie tout au long de sa vie.
On a parlé de son lien avec Martin Luther King. Est-ce qu'elle se considérait comme une activiste?
Elle le présente pas comme ça, mais elle a fait quelque chose que peu d'artistes, d'ailleurs aucun artiste, je pense, n'aurait fait à l'époque. Quand Angela Davis est accusée d'avoir fourni des armes et d'avoir organisé un kidnapping à la fin des années 60, non seulement elle la soutient publiquement, mais elle propose de payer sa caution de libération, qui est un montant de 200 000 dollars, ce qui à l'époque est assez important. Et elle risque sa carrière pour ça, parce qu'Angela Davis, à l'époque, elle est femme, elle est noire, elle est communiste, donc c'est-à-dire qu'elle coche quand même beaucoup de cases qui vont pas de l'Amérique mainstream du tout. Et elle la soutient et elle dit, voilà, moi je dois mon succès, mon argent au peuple noir, et donc je lui rends quand je peux. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça avait certainement contribué à populariser le soutien à Angela Davis, et donc elle a fait libérer.
Merci beaucoup France Humberge, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle votre documentaire Aretha Franklin Soul Sister, disponible sur le site d'arte.tv. Et je précise également que vous venez de terminer un documentaire sur le chanteur Cat Stevens qui sortira dans les prochains mois, c'est
oui,
ça?
C'est ça.
Et la vie d'Aretha Franklin est aussi à découvrir sur grand écran dans Respect, le film qui retrace son incroyable destin, un film en partenariat avec Europe 1.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'il faut entendre pour le croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, celui qu'on va entendre, on ne s'y attendait pas. Il est roi d'Angleterre, pas très gentil. Il s'appelle Henri VIII et il aime trucider ses épouses et chanter.
Oui, Henri VIII d'Angleterre, qui est joué par le beau Jonathan Rhys-Meyers. Vous avez vu la série?
Bah oui,
oh, j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau, pourtant disons qu'il aurait l'âge d'être mon fils, mais mon vieux, je le trouve très bien.
Alors, on en a vu d'autres. Hein.
Lui, c'était effectivement un passionné de musique et il a fait de sa cour d'Angleterre l'une des plus musiciennes d'Europe. Il possédait, comme Louis XIV d'ailleurs plus tard, qui jouait de la guitare, qui adorait la musique aussi et la danse, eh bien Henri VIII possédait une très grande collection d'instruments. Il jouait de la flûte, du luth, du virginal, de l'orgue et de l'épinette. Tout ça, c'est la famille des clavecins, le virginal et l'épinette. L'épinette, c'est un bois, vous savez, le bois d'épinette de la famille de l'épicéa, parce que c'est un bois qui est très réputé en lutherie, parce qu'il a des qualités de résonance particulières. Donc tout ça, épinette, virginal, ce sont des clavecins. Il lisait la musique à vue, Henri VIII, et il chantait très bien, et même il composait. Il a composé deux messes, il a même composé une chanson en français, hélas madame, en français, et oui, une vingtaine de pièces chantées et 13 morceaux instrumentaux. Et surtout, on lui attribue une chanson très connue, intitulée Green Leaves. Voilà, Green Leaves, véritable tube de la Renaissance. Et c'est une chanson en hommage à la dame aux manches vertes. D'après la légende, donc c'est Henri VIII qui aurait composé cette chanson en l'honneur d'Anne Boleyn. C'est pas beau, c'est parce que vous connaissez, vous avez entendu cette chanson.
Oui,
bon, moi, personnellement, je l'interpréterai un peu plus rapidement.
Vous avez ça quand vous téléphonez comme musique de répondeur.
Oh non, c'est plutôt les quatre saisons de Vivaldi, généralement. Alors évidemment, comme le papa adore la musique, ses deux filles, Marie Tudor et sa demi-sœur Elisabeth, vont hériter de ce goût, de ce talent pour la musique. En juillet 1520, alors que Marie n'a que 4 ans et demi, elle joue du virginal virginal pour la visite d'une délégation française. Et Elisabeth aussi joue du virginal. Et alors attention, virginal, on parle souvent avec Elisabeth Ière de la Reine Vierge, mais là le mot virginal n'a aucun rapport avec la notion de virginité. Ça vient du latin virga, baguette. C'est la petite réglette de bois où est fixée une petite lamelle qui sert à pincer les cordes. C'est de là que vient ce mot virginal. Alors le virginal, c'est le must-have absolu des salons du 17e. Toute demeure aristocratique doit en posséder un et doit en faire enseigner la pratique à la jeune fille de la maison. Vous voyez, c'est comme le piano au 19e siècle. Toute jeune fille bien élevée doit avoir un jour un virginal. L'instrument est absolument partout. Et vous vous souvenez, Stéphane, vous aviez fait un récit sur Samuel Pepys, qui est le célèbre mémorialiste. Il a raconté le grand incendie de Londres en 1666. Et il a observé, quand il regardait les barques qui fuyaient Londres, que sur... une sur trois contenait un virginal. Donc toutes les familles londoniennes qui fuyaient la ville avaient leur virginal. Alors Marie Stuart, reine d'Écosse, elle aussi jouait du virginal évidemment. Brantôme raconte qu'elle chantait merveilleusement en s'accompagnant d'un luth. Alors il semble qu'elle ait aussi joué de la guitare et de la harpe. Bon, et on connaît la rivalité qui a opposé les deux femmes, Élisabeth Ière étant fort jalouse de Marie Stuart, réputée pour être l'une des plus belles femmes de son temps. Se pouvait-il que, non contente d'être plus belle, elle jouasse mieux du virginal ? Grave question qui taraudait Élisabeth tout autant que les considérations dynastiques et religieuses. Et un jour, il y a un diplomate écossais qui vient à la cour d'Angleterre en tant qu'ambassadeur de Marie Stuart, Sir James Melville. Et il confirme dans ses mémoires que la reine l'interroge sur « Alors, est-ce que Marie joue bien du virginal ou pas ?» Bon, et elle était très inquiète de savoir si l'autre jouait mieux qu'elle. Alors, elle a organisé toute une petite mise en scène. On a fait parcourir à Melville un méandre de couloir. Tout d'un coup, on lui dit « Vous restez là ». Il reste dissimulé derrière un rideau. Et il a pu écouter Élisabeth Ière, dont il a pu constater l'indéniable virtuosité. Soudain, elle se retourne, elle fait semblant d'avoir été surprise alors qu'elle sait très très bien qu'il est là. On précise à Melville que la reine ne jouait jamais en public, mais uniquement seule pour apaiser sa mélancolie. Et donc ce jour-là, Melville a bénéficié d'un privilège que seule la jalousie d'Élisabeth Ière avait pu susciter. Ce virginal d'Élisabeth, l'instrument, il a été conservé. Si vous voulez aller le voir, il est exposé de nos jours au Victorian Albert Museum de Londres, agrémenté des armes des Boleyn, puisqu'Anne Boleyn était la maman d'Élisabeth Ière. Et en regardant cet instrument, on ne peut s'empêcher d'imaginer la reine vierge retranchée dans son cabinet secret, tirant de cet instrument les sonorités les plus harmonieuses et les plus mélancoliques, avant de se rendre en son conseil pour exiger la tête de sa cousine Marie.
Merci beaucoup Clémentine. Quel récit passionnant. Hein.
Ça nous a donné envie surtout de regarder la série là, avec Jonathan Rhys-Meyers.
Mais c'est joli cette petite chanson. Moi j'espère que c'est vrai qu'elle est bien dans Henri VIII.
Vous n'avez pas les paroles?
Bon, Green Leaves, fond de Green Leaves.
Ok, merci.
Restez avec nous pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est une inimitié qui était avant purement fictive, que j'avais inventée pour cette émission pour vous divertir. Mais désormais, je vous rappelle que Stéphane a dit tout à l'heure que Clémentine était positivement folle. On sent qu'il y a du vrai dans cette inimitié. Ça me plaît, c'est l'heure du quiz. Burn to be alive, Stéphane, la première question est évidemment pour vous une question titanique. Je sais qu'avec les questions sur Sissi, ce sont vos préférés.
On n'a pas tout fait
sur le Titanic. Anne-Elisabeth Isham était sur le Titanic. Au moment de prendre le canot de sauvetage, on lui a demandé si elle voulait réserver une place pour son mari. Elle a répondu qu'elle était contre ce genre de passe-droit. On a appris par la suite qu'elle était en instance de divorce. Vrai ou faux?
C'est pas mal, non?
C'est chouette comme histoire.
Ouais,
en
c'est
même
une belle
temps,
histoire.
Le principe des femmes et des enfants d'abord a été extrêmement bien respecté,
oui, oui.
Et en particulier en première classe. Alors, en quelle classe était Anne-Elisabeth
Isham? Si on a son souvenir, c'est qu'elle devait être dans la bonne classe. Moi, je dirais que c'est vrai parce que...
Vous avez envie d'y croire.
Oui, j'ai envie d'y croire.
Dans les premiers canots, des hommes ont embarqué. Ouais. Et les premiers canots étaient à moitié vides parce que les gens croyaient que c'était un exercice. Ils ne voulaient pas aller se mettre dans l'eau froide. Mais je trouve ça très étrange qu'on ait proposé...
Je ne connaissais pas cette version. Parce que tout le monde sait que les premiers canots sont partis à moitié démarchiez vite, mais vous êtes sûr de ce que vous venez de dire?
Parce que quand on vous dit,
on pensait que c'était un exercice.
Ah bah oui, quand on vous dit exercice, vous avez déjà fait une croisière, on vous dit exercice de survie, là vous n'avez pas envie d'y aller.
Moi j'y vais jamais.
Vous restez dans votre cabine premium à bord du Ponant.
Ah, le tir au fond. Alors, vous, vous seriez mort noyé dans l'eau glacée.
Eh ben,
transformé
plaisir.
En bâton de poisson surgelé.
Et le quiz n'aurait jamais existé.
Ouais. Captain Igloo.
Quel dommage. Vous répondez donc?
Oui, je dis que c'est vrai.
Vous avez...
C'est faux, Stéphane. Cette histoire est une pure fiction. Ouais. Mais Anne-Elisabeth a bel et bien existé. Elle est connue pour être montée à bord d'un canot de sauvetage. Mais quand on lui a dit qu'elle ne pouvait pas prendre son chien avec elle, un grand Danois, elle a décidé de ne pas l'abandonner. Elle est retournée sur le bateau. On a retrouvé le corps d'Anne-Elisabeth Isham et son chien. Plus tard, on sait que 13 chiens étaient à bord du Titanic. Aucun n'a survécu. Stéphane, qu'auriez-vous fait à sa place?
Ah, mais jamais sans mes chiens.
Donc vous seriez resté sur le Titanic et vous auriez péri.
Exactement.
Corps et âme et chiens avec.
Ou alors j'aurais nagé avec mes chiens.
Vous auriez nagé avec vos chiens pas longtemps, hein, dans l'eau à 0 degrés. Question numéro 2. Clémentine, elle est pour vous. C'est au philosophe Michel Foucault que l'on doit guépier le nom de la première parution pour les homosexuels en France. En 1987, Charles Pasqua, toujours bien inspiré, décide d'interdire le journal. Il disparaît en 92. 3 ans plus tard, naît Têtu. Voici la question. Il y a eu un Têtu Madame, comme il existe un Figaro Madame pour le Figaro. Vrai ou faux?
Alors, que Têtu, qui a une époque de son... existence a certainement été un titre qui a bien fonctionné et pu envisager de faire une mouture féminine adressée aux femmes homosexuelles, pourquoi pas. Têtu, madame. Ça aurait été une façon de... Non, parce que je pense que ce titre, s'il a existé, devait prendre la cause au sérieux et serait pas aller surfer et plaisanter sur les plates-bandes du Figaro Madame considéré comme un organe de presse réactionnaire. Donc je dis non.
Vous avez...
Et vous Donc, avez perdu, madame, votre raisonnement une fois de plus se tenait, ça existait, Têtu Madame, mais il n'y a eu qu'un seul numéro, c'était en 2000. Pour l'instant, nous sommes à zéro partout,
Il n'y a eu qu'un exemplaire,
très
franchement, hein,
oui,
vos questions,
c'est néanmoins
merci,
une mauvaise réponse. Ah, question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. L'écrivain Hervé Bazin, le journal Le Canard Enchaîné, mais aussi Alphonse Allais, aimait bien l'utiliser. Il est né en 1841, je veux parler du point d'ironie, un signe de ponctuation qui montre qu'il faut prendre une phrase au second degré. Vrai ou faux?
Ça me dit quelque chose, le point d'ironie.
Qui n'est pas un point d'exclamation, et qui ressemblerait à quoi?
Ouais, justement. J'ai entendu, ça me dit vaguement quelque chose.
Est-ce que ça serait plusieurs points d'exclamation l'un à côté de l'autre ou non? Non, je crois pas avoir vu ça.
C'est de plus en plus clair dans votre esprit, puisque vous êtes en mesure de nous dire ce que ce n'est pas.
J'ai entendu parler de ce point d'ironie. C'est comme certains points du corps humain dont on a entendu parler sans jamais les trouver. Et...
Le cerveau, par exemple.
Je pense que Stéphane faisait référence à un autre point. Mais Stéphane, alors, est-ce que surtout ce point d'ironie existe-t-il et surtout correspond-il, montre-t-il qu'il faut prendre une phrase au second degré? C'est ma question.
Non, je crois pas.
Vous répondez faux.
Moi, je réponds faux.
Vous avez encore
Non.
C'est une débandade aujourd'hui dans le quiz.
Je voulais répondre oui.
Mais pourquoi, que ne l'avez-vous pas
Parce
répondu
Parce que j'ai pensé qu'il y avait un piège, double piège. Ah là.
Par exemple, c'est donc vrai. Si j'écris, j'ai eu une conversation avec Stéphane Bern qui n'était pas du tout ennuyeuse et que je termine par un point d'ironie, c'est qu'il faut comprendre l'inverse de ce que je dis. Le point d'ironie ressemble à un point d'interrogation qui se regarderait dans un miroir.
Oui, à l'envers, comme les Espagnols.
Ah, exactement. Ah, ben, ça vous revient, visiblement. Ça vous revient, mais trop tard. Nous sommes donc toujours à 0-0.
Ah
pas
bon
un seul point n'a été inscrit
mais là,
dans
Clémentine
ce
face-à-face.
Gagner, là. Alors attention.
J'ai répondu bien une de mes deux questions.
Pas du tout, vous avez répondu.
Vous n'avez pas encore eu la deuxième question.
Pour l'instant, vous n'avez eu qu'une seule question.
Ah bon.
Cette question qui vient est très importante. La question qui vient est d'autant plus importante que je ne la comprends pas moi-même.
Ah.
Nous avons un cas rarissime dans ce quiz. Je vais vous la poser néanmoins.
Ah.
Un léopard dessiné a été découvert il y a 31 000 ans sur une peinture rupestre d'une grotte ardéchoise. Alors que la panthère n'apparaît que grâce à Philostrate l'Ancien, soit au 3e siècle. Vrai ou faux? Un point si vous comprenez la question.
Alors,
un
moi
point
je pense
si vous
que ça, ça signifie
c'est vrai,
que.
C'est vrai, parce
ça
que
signifie
j'ai lu cette histoire.
L'apparition de la panthère rentre dans l'histoire à partir du moment où quelqu'un raconte la
vous
raconte.
Vous avez compris mieux que moi la question.
Oui,
voilà.
Et qu'auparavant, elle n'avait pas été observée et, ailleurs que dans cette grotte. Donc, moi je pense que oui, c'est vrai.
C'est vrai,
oui.
Vous avez perdu.
C'est faux! Car la panthère et le léopard, c'est le même animal. On dit léopard pour l'animal au pelage tacheté, mais on pourrait dire panthère. Et la panthère noire, c'est encore un léopard, juste noir.
Bah, je suis d'accord, mais enfin, quel rapport avec la choucroute? Où est le problème?
Eh bien, la question, vous n'avez pas compris la question.
Oui, je sens votre gêne, là, bien sûr, vous êtes gêné. Parce
que je ne suis absolument pas gêné, mais c'est une question que je cautionne totalement et que j'ai parfaitement comprise. Néanmoins, nous passons à la question 5 rapidement. Avec 3 propositions, c'est la question qui va vous départager. C'est en 1892 que naît le poète chinois Shao Yen Ren.
Oh, bien sûr.
Évidemment. C'est un peu le Rimbaud du Sichuan.
C'est poème anacréontique quand il se promène sous les bambous.
Écoutez bien, on lui doit cette phrase. Le poète mangeur de lions dans son repère de pierre. En quoi ce mystérieux énoncé mérite d'être dans le quiz d'Historiquement Vaut? 3 propositions. Quand il a dit cette phrase, il n'avait jamais parlé auparavant, il avait 23 ans. Si je le dis en chinois traditionnel, ça fait chi 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 chi. C'est très très drôle, avec un jeu de mots très fin, ça fait rire tous les Chinois, mais c'est totalement intraduisible en français, ce qui justifie totalement sa présence dans le quiz. C'est ma troisième proposition. Je vous donne l'opportunité d'une autre
réponse.
Stéphane Bern, le finish de la bande, bien sûr. Il connaît le chinois par cœur. Effectivement, chinois. Vous avez été nul jusqu'au bout. Effectivement, cette phrase, le poète mangeur de lions dans son repère de pierre, en chinois, ça se dit chi chi chi, mais les intonations des chi sont différentes à chaque fois. La preuve.
Chi 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 chi.
Faut avouer que c'est subtil. Belle victoire.
Ça fait penser aux chaussettes
de Stéphane Bern.
On a été nuls. On a été nuls. Et votre question sur le léopard est scandaleuse.
Bravo Stéphane quand même.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre. Si vous nous rejoignez seulement, c'est dommage. Vous avez manqué mon récit sur Aretha Franklin. Mais vous arrivez pile à temps pour celui de George Simenon.
Heureusement, vous n'avez rien manqué d'important, puisque mon récit consacré aujourd'hui à une de mes idoles politiques, Manuel Valls, n'interviendra que dans une vingtaine de minutes. Et là, normalement, vous vous dites, Aretha Franklin, George Simenon, Manuel Valls, ils ont fumé quoi, Bern et Noël? C'est quoi la thématique de cette émission? C'est tout simple, Stéphane.
Bah oui, Aretha Franklin, George Simenon, Manuel Valls, ils ont tous été enfants de cœur.
Contrairement à nos chroniqueurs, deux gros dragueurs, deux obsédés qui ont pour aborder les femmes des tactiques d'un autre âge.
Vous aimez le poulet frit ?
Olivier Pouls, bonjour. Vous êtes notre expert gastronomique.
Et ça marche.
Ça marche en plus. Elles disent oui parfois.
Vous savez que pour draguer les femmes, la cuisine est une arme absolument redoutable.
Et parfois, vous les emmenez au cinéma aussi.
Oui, je peux les emmener au cinéma à voir l'excellentissime film délicieux qui sort aujourd'hui et qui raconte l'histoire d'un des premiers restaurants en France. Et moi, je vous raconterai l'histoire de ce qui est vraiment le premier restaurant attesté comme tel en France. C'était à Paris. C'était un peu avant la Révolution. Ben, vous saurez tout.
Et puis, David Castello-Lopez, il a une nouvelle méthode, lui, pour draguer. C'est les jeux de société.
Ah oui, ça marche fort.
Un petit scrabble dans ma case.
Je pense que ça marche. Avec un coup de Émile Louis, tout à coup. En deux blagues, on est passé. Alors je ne drague pas avec les jeux de société, ça marche pas très bien. En revanche, je vais vous parler des origines d'un jeu que personne ici autour de la table
oui, mais nos auditeurs certainement le connaissent.
Je pense, il s'en est vendu quand même 8 millions dans le monde. C'est le Jungle Speed, qui est un jeu vraiment marrant, on s'amuse beaucoup. Je vous expliquerai le principe du coup pour vous.
J'ai l'impression qu'en fait vous n'aimez pas ce jeu, c'est ironique, c'est un point d'ironie.
Je l'aime assez bien, je ne peux pas y passer ma vie, mais. Ouais.
Enfin, les amis, nous réunirons les meilleurs éléments de cette émission, à savoir moi, et nous les opposerons aux autres. C'est la lutte finale, un jeu et une question. Qui sera le moins nul? Réponse vers 6h-10. Pour l'instant, découvrons notre deuxième enfant de cœur du jour, même s'il n'y en avait pas beaucoup dans ses romans. Dans la bibliothèque de notre personnage, au milieu des Maigret, se trouve un livre en forme d'autobiographie. « Je suis resté un enfant de cœur », a-t-il écrit. Enfant de cœur, il l'a été. Resté, c'est moins sûr. Stéphane Bern nous raconte le destin singulier d'un auteur à succès, George Simenon.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il est tôt. Et il fait bien froid dans les rues d'une petite ville de province. Comme chaque matin, un adolescent, les doigts engourdis par le gel et l'obscurité, parcourt le chemin qui relie sa maison à la chapelle, où il officie comme enfant de cœur. Soudain, un bruit. Un craquement de la fine pellicule de glace qui recouvre le sol. Le garçon est effrayé. Un homme gît au sol, un couteau planté dans la poitrine. Dans la pénombre, des bruits de pas. Une silhouette part en courant. L'assassin, sûrement. Le jeune homme s'enfuit. Plus tard, il raconte tout à la police. Mais personne ne va le croire, sauf un commissaire récemment arrivé en ville, touché car il se souvient de ses marches dans le froid, quand il était lui aussi enfant de cœur. Cette histoire, Mathieu, n'est pas réelle. Elle est l'intrigue d'un roman paru en 1947 intitulé « Le témoignage de l'enfant de cœur » qui met en scène une aventure du célèbre commissaire Maigret. Si célèbre que certains en oublieraient même le nom de son créateur, Georges Simenon. Et dans cette histoire qui voit ressurgir l'enfance du commissaire, reparaît en vérité la vie de Simenon lui-même. La petite ville de province enrobée dans l'hiver n'est autre que Liège, en Belgique, où Georges Simenon naît en 1903. La rue est certainement la rue de la Loi, où sa famille s'installe en 1911. La chapelle, celle de l'hôpital de Bavière, où Georges Simenon fut enfant de cœur dès ses 8 ans, pendant qu'il suivait ses études au collège des Jésuites. À cette époque, Georges Simenon est un élève doué et curieux. Il dévore les romans en même temps que sa curiosité littéraire s'ouvre auprès des étudiants étrangers qui louent des chambres dans la maison familiale, un moyen pour sa mère d'assurer un meilleur revenu. Adolescent, Georges est autant attiré par la mystique divine que par les plaisirs infinis de la littérature. Pourquoi donc ne pas lier les deux ? Voulant se vouer à l'écriture qu'il n'imagine pas comme un réel travail, sa mère le lui a assez répété, il songe à devenir prêtre, ce qui lui laisserait du temps pour s'adonner aux joies de la littérature. Mais un événement qu'il raconte avec malice bien des années plus tard va changer la vie de Georges. À 13 ans et demi, une petite fille, plus âgée que moi il est vrai, me dévoila que je n'avais aucune vocation pour la prêtrise. Vous l'avez compris, cacher ce sein que je ne saurais voir, c'est bien par la découverte de la sexualité que Georges Simenon réalise qu'il ne sera ni prêtre, ni même plus enfant de cœur. Au-delà de collectionneur de maîtresses, lui qui se revendique comme homme aux 10 000 femmes, il sera donc auteur. Ce qu'il imaginait comme un sacerdoce purement intellectuel, il va en faire un métier. Et c'est peu dire qu'il s'y adonnera avec opiniâtreté. 192 romans, 158 nouvelles et de nombreux articles ou autres textes. Et j'ose à peine évoquer les 167 livres et dizaines de récits écrits sous une trentaine de pseudonymes. Les chiffres donnent le vertige et l'on estime que 550 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde et traduits en 47 langues. Les aventures du commissaire Maigret déclinent en 75 romans et 28 nouvelles entre 1931 et 1972 sont incontestablement celles qui firent la gloire de Georges Simenon. Il y développe une narration singulière et des intrigues qui, selon son premier éditeur, ne répondaient en rien au code de la littérature policière. Loin d'un manichéisme religieux dans lequel Simenon a grandi, il n'y a dans ses romans ni bien ni mal, ni coupable ni innocent. Il n'y a que des victimes, criminels compris. La série des Maigret, à l'image de son héros, tient à saisir des mentalités et à comprendre ce qui pousse au crime plutôt qu'à échafauder de complexes trames narratives. Simenon fut certainement influencé par son travail de reporter qu'il pratique dès ses 16 ans à la Gazette de Liège, à la rubrique Faits divers, ce qu'on appelait les chiens écrasés. Puis il a collaboré avec moult revues en documentant notamment ses nombreux voyages à travers le monde, car Simenon a la bougeotte. Il parcourt la France, l'Europe, puis l'Afrique et les États-Unis, où il vit pendant 10 ans, avant de revenir s'installer en Europe et de se fixer en Suisse à partir de 1957. Parcourir le monde, c'est emmagasiner des souvenirs qu'il s'applique à faire ressurgir dans ses phases créatives. Et pour produire autant, il lui fallait une routine. Quand il sent monter en lui le besoin d'écrire, il se décharge de toute contingence pour une dizaine de jours, fait venir un médecin pour s'assurer qu'aucune maladie ne viendra troubler le foyer, annule les visites, ne lit plus son courrier. Il s'assure une totale tranquillité. Au cours de marches ritualisées, il laisse surgir des souvenirs, d'où naissent des ambiances et des décors. Il a besoin de se les figurer au point d'en dresser les plans sur une feuille de papier. Il dit lui-même que si son héros entre dans une pièce, il doit savoir s'il ouvre la porte par la droite ou par la gauche. Un personnage doit être concret. Simenon lui crée un véritable état civil, imagine une existence et se demande quel événement pourra pousser le personnage dans ses retranchements. Qu'est-ce qui va créer le drame ? Les chapitres se déroulent ensuite au rythme d'un par jour, souvent 9 ou 10, avant l'envoi à l'éditeur. Voilà comment cet auteur si prolifique a écrit des centaines d'ouvrages. C'est lorsqu'il s'installe à Paris il y a presque 100 ans, en 1922, qu'il commence à vivre de sa plume, produisant des romans à l'eau de rose, parfois sulfureux, en plus de récits d'aventure. À partir de 1931, il lance la série des Maigret et alterne toute sa vie avec ce qu'il appelle ses romans durs, ceux où il s'affranchit du commissaire et du polar pour sonder l'âme humaine. Le roman Le Train, par exemple, paru en 1961, dépeint l'exode face à l'avancée de l'armée allemande. Dans la promiscuité et le temps suspendu d'un wagon de réfugiés, le héros vit d'une passagère et charnelle aventure avec une étrangère. Simenon y explore avec subtilité les notions de désir, de fuite ou de lâcheté. Un récit mélancolique qui permet d'apprécier que Simenon n'était certainement pas l'auteur d'un seul genre ou d'un seul personnage. En 1972, jusqu'à sa mort en 1989, il décide d'ailleurs d'abandonner Maigret et le romanesque pour adopter une démarche introspective, lui qui reste marqué par sa jeunesse, au point d'intituler l'un de ses récits autobiographiques « Je suis resté un enfant de cœur ». Souvent cantonné à son écriture policière, parfois méprisé par certains tenants des belles lettres, d'autres ne s'y sont pas trompés. À l'image d'un certain André Gide, prix Nobel de littérature, prophétisant « Vous êtes le premier romancier populaire universel et vous serez un jour reconnu comme le plus grand de tous. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Et Stéphane, pour continuer à parler de Georges Simenon, nous sommes avec l'écrivain et essayiste Jean-Baptiste Baronian. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Baronian, vous êtes écrivain, essayiste et critique littéraire, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Vous avez fondé l'association Les Amis de Georges Simenon et vous lui avez consacré plusieurs ouvrages, dont Le Paris de Simenon aux éditions Alexandrine et Simenon, romancier absolu, paru aux éditions Pierre-Guillaume Roux. En quoi, pour vous, c'est un romancier absolu ?
C'est un romancier absolu dans le sens où ses romans sont purs et débarrassés de toute critique humaine, de considération morale, religieuse, sociétale. Ce sont des livres dans lesquels il se contente de raconter des histoires, de mettre en scène des personnages sans porter sur eux le moindre jugement. Il se contente d'une intrigue sans autre considération et c'est en cela qu'il est un romancier absolu.
Alors avec ses Maigret, Georges Simenon est bien évidemment rangé dans la catégorie des romans policiers, mais Stéphane le disait tout à l'heure, ses romans sont beaucoup plus variés. Maigret, c'est l'arbre qui cache la forêt de Simenon.
D'une certaine façon, il faut quand même considérer que sur l'ensemble de ses écrits, les Maigret représentent quand même 40% de son œuvre. C'est quand même une masse relativement considérable. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à le réduire au personnage de Maigret, alors qu'il a écrit ce qu'il appelait lui-même des romans durs. Mais c'est une notion un peu vague, hein. Elle ne couvre pas grand-chose. D'ailleurs, lui-même parlait de romans durs, de romans de la destinée. Il a même utilisé la notion de roman gris, pour ce qui serait une sorte d'intermédiaire entre le roman noir tel que nous le connaissons et puis le roman blanc, qui serait lui le roman traditionnel. Et longtemps, en ce qui me concerne, j'ai considéré que ses romans durs étaient meilleurs que ses Maigret. J'avais tendance à penser que les Maigret étaient une sorte de divertissement dans son œuvre. Et aujourd'hui, je n'en suis pas là. Je considère que il y a dans Maigret des choses exceptionnelles, extraordinaires, et que le personnage de Maigret, la façon dont Simenon le met en scène est tout à fait sont tout à fait exceptionnels. Enfin, s'il y a quelque chose de très grand également chez Maigret. Donc moi, je ne mets pas en balance, ou en équivalence, ou en parallèle, ou en opposition les Maigret d'un côté et les romans durs de l'autre. Je considère que tous les deux font partie du génie de Simenon, car je parle de génie.
Il a écrit une autobiographie et c'est notre thématique du jour. Je suis resté un enfant de cœur. Enfant de cœur, il l'a été. Est-ce qu'il l'est resté, à votre avis ?
C'est difficile à dire. Je pense qu'il garde une forme d'innocence. Il l'est peut-être resté dans le sens où Simenon n'est pas un romancier qui pense. C'est pas quelqu'un qui réfléchit. C'est pas quelqu'un qui a un point de vue, une théorie sur l'existence, sur le monde, même si à la fin de sa vie, à travers les dictées qu'il a écrites, il a distribué toute une série de bons et de mauvais points à certaines personnes, sur certains sujets a pris position. Mais il est resté un enfant de cœur dans le sens où il garde une forme d'innocence et de candeur sur le monde et sur lui-même aussi. Et d'ailleurs, quand il dit il est resté un enfant de cœur, il faut le prendre aussi au sens premier du terme, puisque longtemps il a servi la messe le matin. Mais... Il a été quand même très marqué par son éducation religieuse, ainsi que vous le disiez tout à l'heure.
Mais justement, ce côté, je veux devenir prêtre, ça c'est pas une boutade. Il aurait pu vraiment devenir prêtre s'il n'avait pas remporté l'amour charnel.
Comme vous le savez sans doute, donc il y a ce qu'on appelle son œuvre autobiographique qui réunit quand même 25 volumes, c'est considérable. Dans une de ses dictées, la deuxième, il y a une toute petite mention où il dit « J'ai été mystique ». Et lorsque j'étais chez les frères et par la suite chez les pères jésuites, j'ai voulu être prêtre. Et ça se remet à ça. Et puis, juste après, le paragraphe suivant, il évoque le fait qu'à l'âge de 13 ans et demi, de 14 ans,
ça s'enchaîne.
Il avait rencontré une jeune fille et qu'il a fait l'amour avec cette jeune fille. Et qu'à ce moment-là, il n'a pas eu le sentiment de commettre un péché de chair et que ça l'a débarrassé de ses convictions religieuses et qu'il est devenu un croyant.
Cela dit, quand il écrivait, il avait une vie monacale.
Oui, puis le contexte aussi. Il faut bien se dire que lorsqu'il évoque cette chose-là, nous sommes dans les années 1910, 1915, 1920, en province à Liège, si tout le monde n'est pas catholique, tout le monde baigne dans un climat religieux. D'ailleurs, tout l'univers de Simenon, on se confesse. Les romans, d'ailleurs, portent ces titres. Il y en a un roman qui s'appelle Le Confessionnal. Il y a un roman qui s'appelle Le Petit Saint. Vous avez cité Je suis l'enfant de Maigret, l'enfant de cœur. Enfin, les références sont considérables. On célèbre le baptême, la confirmation, la communion solennelle. On est enterré à l'église, le monde civil apparaît très peu. Mais c'est pas pour cela que pour autant il y a une croyance, une adhésion à la religion. C'est le contexte social, je dirais, le contexte naturel de son existence qui le pousse à multiplier, je dirais, les références à la religion.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Baronian de nous avoir éclairé sur... Georges Simenon. Je rappelle votre livre, il faut laisser aux auditeurs aussi la joie de découvrir vos ouvrages. Simenon, romancier absolu, Paris, aux éditions Pierre-Guillaume Roux, ainsi que Le Paris de Simenon aux éditions Alexandrine. Et votre dernier livre, c'est un roman concupiscent et qui est paru aux éditions Lamirois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous remercie.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont été enfants de cœur dans une autre vie. Après Georges Simenon et Aretha Franklin, vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, d'un ancien Premier ministre qui a donc lui aussi démarré enfant de cœur.
Oui, alors Stéphane, vous savez, je commence à vous connaître, je vous vois venir, hein, avec votre sourire en coin. De toute façon, vous ne trouvez votre plaisir que dans le dénigrement et la moquerie.
Mais comment
moi qui ne suis qu'amour, ça me choque, mais
non.
Je me plie à vos désirs. Pas le choix. Oui, ok, on va se foutre de la gueule de Manuel Valls. Moi, certainement d'ailleurs avec une musique originale, hein, comme par exemple... Voilà, on est bien, hein, surtout quand je vais vous raconter que le petit Manuel était enfant de cœur, comme s'il avait besoin qu'on ajoute une ligne à son CV déjà si propice à la rigolade. Car Manuel Valls, Stéphane, pour une raison qui m'échappe, n'est pas un homme d'État, c'est un punching ball. Il est au monde politique ce que Mélanie Laurent est au monde cinématographique. Il en prend toujours plein la gueule et offre malgré lui une véritable catharsis à la gauche qui le trouve beaucoup trop à droite qui le considère comme un vendu de la gauche, aux journalistes qui en font le héros de leur feuilleton gaguesque, aux Français qui lui disent d'arrêter de se prendre pour un danseur de flamenco et aux Espagnols qui, grosso modo, lui disent « Cassos le francésé ». Depuis quelques années, si quelqu'un doit prendre, c'est Valls. Et pourtant, il était mignon, le petit Manu. Quand il chantait l'Ave Maria avec ses copains enfants de cœur, mais c'est fini Stéphane aujourd'hui, il se dit agnostique, le rite a fini par l'ennuyer, explique-t-il. Il faut dire qu'il en a bouffé de la messe quand il était petit. Manuel Carlo Valls Galfetti, de son vrai nom, voit le jour le 13 août 62 à Barcelone. Ah, le Barcelone de Gaudi, bien sûr, mais surtout le Barcelone d'Erasmus. Et des enterrements de vie de garçon, le Barcelone où, après avoir vomi sur la remblasse des hectolitres de Chupitos, on repart en boîte déguisé en licorne en hurlant
« Shake your booty ».
C'est dans cette ville que le petit Manuel est baptisé. Le 24 août 62, il sera élevé dans une famille où on ne déconne pas avec le dogme catholique. Pas question de zapper la messe pour aller boire des Chupitos en scred. Et pour cause, c'est la religion en héritage. Le papy de Manuel était rédacteur en chef d'un grand journal catholique. Quand la famille déménage en France, Manu est d'ailleurs naturalisé en 82, elle reste très pratiquante et stricte. Chez les valse, ça file droit. D'ailleurs, Manuel avait interdiction de tutoyer son père. C'était pas « Dis pas, tu peux me filer un yop », mais « Père, serait-ce un effet de votre bonté que de bien vouloir me découper une tranche de pâte à negra ?» Sa sœur cadette, Giovanna, se souvient. Manuel était réservé, couche tôt et lève tôt. Il lisait énormément, il adorait les échecs. Nous allions à la messe le dimanche. Je me suis demandé un moment s'il n'allait pas faire le séminaire. Oui, si Manuel semble être l'ado le moins cool d'Europe au tournant des années 80, sa sœur, elle, sort un peu du cadre, elle tombe dans la drogue et c'est Manu, au grand cœur, qui va la sauver. Alors qu'il préparait sa campagne pour la mairie d'Evry, il fait un aller-retour à Barcelone pour lui parler et l'aider à sortir la tête de l'eau. Merci Welling. Mais vers ses 16-17 ans, Manuel Valls commence à changer. Il s'intéresse de plus en plus au foot et de moins en moins à Jésus, d'autant qu'un vague cousin de son père a composé l'hymne du FC Barcelone, dont Manu devient supporter. Il se disperse, chope un 5 sur 20 à l'écrit au bac de français, et il le confiera des années plus tard à Jean-Jacques Bourdin. Il aurait goûté une fois, une seule, aux fruits défendus, Stéphane, la ganja, la marijane, le hashish. Il peut m'être arrivé d'avoir fumé peut-être une fois, déclare-t-il dans une formulation si alambiquée qu'elle trahit la vérité, à savoir tout simplement qu'il a été jeune à Barcelone.
Shake your booty.
Oui, personne ne va lui reprocher. En 86, il décroche tout de même, malgré cette terrible incartade, une licence d'histoire. À la fac, il se lie d'amitié avec Stéphane Fuchs, le futur communicant de DSK, et Alain Bauer, un criminologue sarkozyste, écrit la presse. Les trois se disent de gauche, rocardiens, mais déjà à l'époque, les étudiants gauchistes trouvent Manuel beaucoup trop chiant pour être de gauche. Alain Bauer raconte « On était déjà des sociodémocrates, pas très refaiseurs de monde. L'autogestion, on n'y croyait pas nous-mêmes. Notre référence, c'était Mendès France, pas Lénine ou Trotsky. » Un autre ancien étudiant plus militant dira des années plus tard « Ils étaient comme des buveurs de camomille à une fête de la bière. » Non, Manu, les manifs où on graille des jambon-beurre avec des syndicalistes en écoutant Manu Chao, c'est pas sa came. En revanche,
depuis le temps que je patiente dans cette
chambre, il a un dada, c'est la corrida qu'il aimait j'entends plus jeune aller voir avec son papa. « Regardez papa, le taureau va se faire buter, vous avez vu ?» Enfin, ne jugeons pas. Vous-même Stéphane, je crois que vous avez assisté à une corrida cet été.
C'était super, oui. Les enfants ont beaucoup aimé.
Non, oui, c'est toujours une sortie agréable en famille.
Ah non, mais comment?
Ah, mais oui, mais on dira ce qu'on voudra.
Détournez mes propos.
Non, ça scandale. Vous remercie quand même un peu plus que les mioches que Toy Story 4. De plus en plus investi en politique, Manuel devient attaché parlementaire, délégué ministériel au JO d'Albertville, chargé de la com du cabinet de Lionel Jospin. Puis en 2001, il est élu maire d'Evry. Il sera ensuite ministre de l'économie, puis vous le savez, premier ministre sous Hollande. Une ascension qui ne va pas sans susciter des jalousies, notamment au sein du PS, où on le considère désormais comme encore plus à droite qu'une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute. En 2016, sentant que son heure est venue, il démissionne de son poste pour se présenter à la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle. Les débats télévisés sont un peu cata, hein, il a du mal avec les questions des journalistes, il s'embrouille dans ses réponses, bref, il nous fait une Castello.
Victor Hugo habitait la rue Victor Hugo.
D'accord. Donc Victor Hugo a habité rue Victor Hugo.
Oui. En fait, c'était avenue Victor Hugo.
D'accord. Ah donc d'accord. Mais donc l'avenue Victor Hugo s'appelait pas Victor Hugo à cause de lui.
Victor Hugo habitait avenue Victor Hugo. D'ailleurs, quand il est mort, on dit Victor Hugo en son avenue.
Non, c'est-à-dire qu'il a eu une rue à son nom de son vivant.
Vrai ou faux?
C'est vrai. C'est vrai.
Ayant été aussi brillant que Castello dans le quiz, c'est assez logiquement que Manuel Valls perd la primaire au profit de Benoît Hamon. Le coup est rude.
Son premier réflexe est de se cacher dans un bois à la sortie de la ville.
Et oui, et là, mon Manuel tourne sur lui-même sans trop savoir où aller, comme quand on est perdu dans un hypermarché. Un peu étourdi et démuni, il annonce qu'il quitte le Parti Socialiste pour rejoindre La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Les socialistes le traitent de traître, La République En Marche de ringard. Manuel, lui, attend patiemment sa place au gouvernement Macron. Il attend. Il attend longtemps, ça ne vient pas. Bon, ça, ils ont peut-être égaré son 06, ils vont appeler. Il attend encore un peu. Puis finalement, le 25 septembre 2018, il se résigne enfin et annonce sa candidature aux élections municipales de Barcelone. Où il sera élu conseiller municipal, sa liste étant arrivée en 4e position, ce qui, comme dirait David, est bien, mais pas top. Et aujourd'hui, il est de retour. Adios Barcelone, Manuel Valls devient notre confrère Stéphane, pour ne pas dire notre terrible concurrent, puisqu'il rejoint l'équipe de RMC et BFM, où il devient chroniqueur. Un mot d'encouragement pour votre nouveau confrère, Stéphane?
Jamais. Ce serait un déshonneur.
Moi, je l'avais dit, vous êtes vraiment méchant, Stéphane. Désolé, Manuel. Faut l'excuser, mais avec David et Olivier, on te souhaite bonne chance. On a un lien. Nous aussi, on adore Barcelone.
Secoue tes fesses.
Oui, ah, Barcelone. Que de souvenirs, que de souvenirs.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était 99% vrai.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Nous entrons dans la dernière demi-heure de l'émission où l'on croise assez peu d'enfants de cœur.
C'est sûr, notamment au moment de la lutte finale, ce pugilat fratricide qui nous oppose désormais à la fin de l'émission. Mais d'abord, on se replonge dans notre quotidien en essayant de comprendre d'où viennent ces choses qui nous entourent, comme par exemple les restaurants.
Eh oui,
Depuis quand allons-nous au restaurant? Enfin, où peut-on aller au restaurant? Ben, vous le saurez dans un instant. Et puis, c'est la chronique et le support à la sortie d'un film dont je vous toucherai un petit mot aussi, que j'ai beaucoup aimé.
Mais tout de suite, David Castello-Lopez.
Qui nous présente les origines d'un jeu de société qu'on appelle le Jungle Speed. Très connu, évidemment.
Tout à fait.
Mais d'où vient-il?
Très connu, il s'en est quand même vendu 8 millions dans le monde, donc je ne suis pas le seul à avoir joué à ça. Non, il y a un truc qui me fait un peu de peine récemment. J'ai des très bons amis à moi qui sont de plus en plus obsédés par les jeux de société. Et ils sont en particulier obsédés par des jeux de société compliqués. Les parties qui durent 3, 4, 5, 8 heures quelquefois. Mais si, des jeux de société où il faut construire des mondes avec des ressources, stratégiser, thésauriser.
Et je dois pas de vie sexuelle.
Mais en plus, je crois que si, elle doit être peut-être un peu alternative, mais en tout cas, elle existe. Et je dois avouer qu'il arrive que je décline leurs invitations parce que j'ai pas envie de passer 5 heures à faire bouger des pions en forme d'elfes sur des morceaux de carton. Mais il reste quand même des jeux que je refuse rarement. Je refuse rarement un Time's Up, par exemple, que je trouve quand même assez marrant. Je refuse rarement un Trivial Pursuit parce que je trouve que je suis assez fort. Et surtout, je refuse très rarement un Jungle Speed. Alors, vous m'avez révélé plusieurs fois au cours de cette émission que vous ne saviez pas ce qu'est le Jungle Speed. Et c'est embêtant parce que pour la première fois depuis le début d'Historiquement Vôtre, il y a un an et demi, je vais pas pouvoir vous montrer le jeu auquel je fais référence parce que je l'ai oublié chez moi. Mais comme je suis quand même un petit peu sérieux, j'ai refait un jeu de Jungle Speed, moi-même, sur des cartes en papier.
Radio amateur.
Et je vais essayer de le décrire avec les moyens du bord.
Suivez-nous sur europe1.fr, c'est pathétique.
Voilà. Le Jungle Speed, c'est un jeu dans lequel il y a 80 cartes avec des motifs imprimés. 18 motifs différents que moi, j'ai fait au stylo sur des petites feuilles de papier.
Talent pictural, donc, aussi, voilà, David Castello-Lopez. Votre soleil est magnifique.
C'est vraiment, voilà. On distribue les cartes en nombre égal. Elles doivent rester face contre table de façon à ce que les joueurs ne puissent pas les voir. Et puis, chacun leur tour, les joueurs révèlent une carte de leur jeu. Et lorsque deux joueurs, et c'est là que ça devient fun, lorsque deux joueurs se retrouvent avec la même carte, avec le même motif devant eux, ils doivent saisir le plus vite possible le totem en bois qui se trouve au milieu de la table et que je figure ici avec cette vieille bouteille de Viandox qui date d'une de mes chroniques de l'année dernière. Donc, voyez, hop, vous remarquez que vous avez le même motif et hop, on doit prendre le totem le plus
J'espère
vite.
J'espère qu'elle est bien fermée, sinon on va foutre du Viandox partout, ça va être dégueulasse. Hein.
Non, j'ai fait attention à bien la fermer.
Surtout, elle est vide, on a
tout bu avec Olivier Pouls. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça donne lieu
à des... Oui, ça n'a l'air de rien, oui, mais ça, effectivement.
J'étais sûr que vous diriez ça. Ça donne lieu à des rigolades de très très bonne qualité. YouTube est plein de vidéos de gens qui s'amusent beaucoup.
Parce qu'on peut aussi regarder des gens jouer au Jungle
Speed. Tout à fait.
Film.
Alors ça, c'est ce qui se fait maintenant. C'est sur Twitch et machin, de regarder des gens jouer à des jeux. C'est vraiment un stade de la civilisation que je n'ai pas atteint encore, mais qui existe. Et puis, c'est vraiment fun aussi parce qu'il arrive bien sûr que deux joueurs saisissent le totem en même temps. Et là, ça donne lieu à des luttes très très rigolotes.
On a le droit de se battre.
On n'a pas le droit de se battre. Il y a une règle que les créateurs du jeu ont appelée une règle anti-émeute. C'est que quand il y a une sorte de contentieux sur qui a saisi le totem en premier, on compte le nombre de doigts qui se situent sur le totem et c'est celui qui a le plus de doigts qui gagne. Titre. Voilà. Mais alors, qui est le roi de la rigolade, hein, qui a inventé le Jungle Speed?
Parce qu'on est à 4 minutes, c'est la première fois. Là, vous avez consacré les 4 cinquièmes de la chronique à expliquer
de quoi il s'agit. Oui. Mais je suis avec des gens qui n'ont pas de culture des jeux de société. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ce n'est pas un roi de la rigolade qui a inventé le Jungle Speed, mais deux rois de la rigolade qui sont tous deux français. Cocorico, Thomas Vuarchex et Pierrick Yakovenko. C'était au début des années 90. Ils avaient 20 ans. Ils étaient étudiants en infographie en Picardie. Voilà, c'est peut-être le genre de gens qui aiment bien les jeux de société, je ne sais pas. Et disons, assez banalement, ils aimaient bien jouer aux jeux de société, alors ils se sont dit, tiens, si on crée notre propre jeu. Ils ont fait un prototype tout seuls en sculptant eux-mêmes leur petit totem à bois avec des ciseaux à bois. Et puis ils ont commencé à distribuer leur jeu tout seuls en le proposant dans les bars et les colonies de vacances. Il y avait, dans l'underground parisien du jeu de société dans les années 90, hein, que je n'ai pas connu et je pense que personne ici non plus n'a connu, il y avait des soirées Jungle Speed, vous voyez, où les gens se réunissaient pour jouer au Jungle Speed. Jusqu'à ce que il y ait un éditeur de jeux qui les accepte. Et cet éditeur, c'est Asmodée. Asmodée, qui est un éditeur français, qui depuis est devenu un des principaux éditeurs de jeux dans le monde. Et là, à partir de 2002, ça a explosé. Et c'est là que moi, j'ai connu le jeu et que Mathieu, vous auriez dû le connaître.
Qu'est-ce qui s'est passé
aussi? Je sais
ça
pas ce qui s'est passé.
En Suisse.
Ça peut-être pas dû arriver en Suisse, mais j'ai fait un petit sondage dans la rédaction, les gens connaissent, hein, oui. Les gens connaissent. Comme je vous disais, il s'en est même vendu quand même 8 millions dans le monde. Et rapidement, il y a des gens qui ont légèrement changé les règles pour que le fun soit encore plus conséquent. Et l'un de ces changements, il consiste à placer le totem non pas au milieu de la table sur laquelle on joue, mais dans une autre pièce de la maison. Et donc, quand deux joueurs dévoilent la même carte, ils doivent se lever, courir comme des
ératés. Vous avez vu, c'est Stéphane, 600 mètres carrés, une fois l'autre bout, ça fait une course olympique. Quoi.
Ça fait des courses. Et on voit, en plus, dans les règles, on peut se plaquer, se faire des clés de bras, on peut lutter dans le but d'arriver le premier au totem. Ça donne aussi lieu, donc ça donne le lieu à du fun, mais également à des côtes cassées, à des hématomes. Hein, et quoi de plus réjouissant qu'une soirée qui se termine à l'hôpital, hein. C'est vraiment un niveau de fun particulièrement élevé.
On n'a qu'une hâte, c'est de jouer tous ensemble au Jungle Speed.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Alors qu'il vient de finir de boire le totem Viandox de David Castello-Lopez, Olivier Poul nous raconter l'origine des restaurants, car finalement le restaurant était inventé en France.
Oui, je vais y revenir dans un instant, mais tout d'abord, si vous n'avez rien à faire ce soir ou dans les jours qui viennent, les amis, courez au cinéma, voir un film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Délicieux, un film d'Éric Bénard avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré. C'est un film remarquable et c'est un film qui raconte la naissance des premiers restaurants en province. Alors l'histoire se passe dans le Cantal, juste avant la Révolution. C'est une fiction qui est toutefois assez proche de ce qui est probablement, de ce qui est arrivé à l'époque et qui a donc conduit à la naissance des premiers restaurants. Alors pour parler de cette naissance et pour la dater précisément, il faut s'entendre finalement sur ce qu'est le concept de restaurant.
Et oui, parce qu'il y avait des tavernes quand même au Moyen-Âge.
Et oui, depuis longtemps, les hommes qui voyageaient avaient besoin de se reposer, de faire reposer leurs chevaux et de manger. Ils s'arrêtaient dans des relais de poste ou dans ce qu'on appelait des tavernes, et dans lesquelles ben, on mangeait un plat unique, en général sur une grande table qu'on partageait avec tout le monde. On payait et on s'en allait. Alors, l'idée du restaurant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'avoir des choix multiples, c'est l'idée de la carte, c'est la première des choses, donc d'avoir des plats différents, et l'idée d'avoir des tables individuelles. Alors pour ça, on a une date précise, c'est 1765, c'est à Paris, et c'est un certain Mathurin Rose de Chantoiseau qui ouvre ce premier restaurant, ça claque, entre guillemets, hein. C'est pas mal comme un. Ouais. Il faut savoir qu'à l'époque, restaurant ne faisait pas allusion au lieu, on ne disait pas un restaurant, mais le restaurant, c'était ce qu'on y mangeait. Et c'était des bouillons.
Ah, mais oui, c'est beaucoup plus logique, ça. Ouais, c'est un présent,
on se restaure.
Oui, exactement. Et c'était des bouillons. Et dans ce premier restaurant, les premiers plats qu'on pouvait manger, c'était différents bouillons. On pouvait choisir ces bouillons. Et surtout, on payait en fonction de la quantité de bouillons qu'on mangeait. C'est vraiment le premier concept de restaurant qui arrive. Et puis surtout, il va se développer de manière très significative avec la Révolution.
Ah oui, quand tous les chefs des maisons privées sont privées de maisons.
Exactement. Ah, et on le voit d'ailleurs. Eh oui, c'est tout à fait lié. On le voit d'ailleurs dans le film. Au début, le personnage principal est au service d'un duc. Une petite histoire de plat se passe mal. Il est renvoyé. Et il va pas avoir d'autre solution que de se retrouver dans une auberge et de cuisiner pour les autres. Et c'est ce qui va véritablement se passer au moment de la Révolution, lorsque tous les nobles de France qui avaient à leur service des chefs, et dans les endroits dans lesquels on mangeait le mieux en France à l'époque, vont se retrouver à la rue et ils vont se mettre à cuisiner pour les autres. Il faut savoir qu'avant la Révolution à Paris, il y a une vingtaine ou une trentaine de restaurants seulement. 30 ans plus tard, il y en a 2000. Et donc, vraiment, c'est l'essor de la restauration qui arrive à ce moment-là. Et pour revenir à notre chef en question, à notre premier restaurateur, donc Mathurin Rose de Chantoiseau, l'un des premiers plats qu'il va proposer à sa carte en dehors des bouillons, c'est une volaille sauce poulette. Alors, sauce poulette, c'est une sauce à base de fond de volaille liée avec un œuf, avec éventuellement des champignons de Paris. Et ça va lui valoir et du succès et des ennuis. Du succès parce que les gens vont adorer ce plat et ça va faire un peu la réputation du lieu. Et des ennuis parce qu'à l'époque, il y a des rôtisseurs à Paris. Et les rôtisseurs sont des gens qui préparent la volaille, mais on ne peut pas manger sur place. C'est de la volaille emportée, c'est du take-away avant l'heure, si vous voulez. Et donc ces rôtisseurs vont voir évidemment d'un très mauvais œil qu'on puisse aller s'attabler dans cet endroit, manger le même produit qu'ils faisaient, c'est-à-dire de la volaille. Ils vont même l'attaquer en justice.
Ils auraient pu faire des terrasses. Si
Anne Hidalgo avait été là à l'époque, ils auraient mis des morceaux de bois partout devant chez eux, ils auraient eu des terrasses partout, mais c'était pas le cas. Et finalement, eh bien, Mathurin Rose de Chantoiseau va obtenir gain de cause. Il va pouvoir continuer à exploiter ce fameux restaurant qui était situé à l'époque rue des Poulies, près du Louvre.
Ça existe encore, ça?
Je suis pas sûr que
la rue des Poulies existe toujours. Non, je ne crois pas. À l'époque,
c'était la rue des Poulies. Elle était située près du Louvre à Paris. Et voilà comment on va démarrer la grande histoire de la restauration.
Et donc, t'as pas de recette aujourd'hui?
Je pourrais vous donner la recette de la sauce poulette rapidement, si vous voulez. Cette fameuse sauce qui a fait le succès du premier restaurant.
Stéphane fait oui de la tête. Mais en régie, on me fait non de la tête.
Ah, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps.
Eh bien, vous savez quoi? Ça fait une autre chronique pour un autre jour.
Non, c'est... Alors, le mec, il veut capitaliser. Non, donnez-nous la recette de la sauce poulette.
La sauce poulette est une sauce blanche, c'est-à-dire un fond de volaille que vous faites réduire avec un petit peu de crème. On rajoute un ou deux jaunes d'œufs pour le lier, donc pour l'épaissir. Un trait de jus de citron. Et quelques morceaux de champignons de Paris, ça accompagne merveilleusement les volailles.
C'est un peu une sauce de blanquette, sauf qu'à l'heure du veau, il y a du poulet.
C'est un peu l'idée, voilà, exactement. Et donc, cette fameuse sauce poulette était servie dans le premier restaurant parisien, Feu rue des Poulies.
Et voilà, là, je crois qu'on a été vraiment complet. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
L'émission touche à sa fin, tous autour de la table, on commence à accuser le coup, on a faim, bientôt un filet de bave va pointer à la lèvre d'Olivier Pouls, qui, le regard vide, se contentera de dire
« Mouclade ».
Pourtant, c'est le moment que ce vicieux de Stéphane Bern a choisi pour tester nos connaissances en histoire.
Une question pour chacun, une autre pour départager s'il y a des ex-échos. Je commence toujours par Olivier Pouls. Il faut avoir des réflexes comme ça dans cette émission. La Phénicie aussi était une région très importante entre 1200 et 300 avant Jésus-Christ. Elle correspond à peu près au Liban actuel. Un exemple de princesse phénicienne, Europe, qui a donné le nom à notre continent. Vrai ou faux?
Moi, je dirais oui.
Oui, c'est bonne réponse. Selon la légende, Zeus s'est approché d'elle sous la forme d'un taureau blanc. Elle s'est accouplée avec lui, mais je vous rassure, une fois qu'il avait repris apparence humaine.
Ah oui.
J'ai eu peur. Non, elle s'est pas accouplée avec un taureau. Il s'est approché sous forme d'un taureau.
C'est mieux.
Et après, c'est en tant qu'homme qu'il a eu une relation avec Europe. David, c'est pour vous la question.
Oui.
Ce que l'on a considéré comme le salut hitlérien était à l'origine un salut américain. Vrai ou faux?
Non, c'est un salut romain.
Ah là, David est énervé, visiblement. Ah oui, quand vous perdez au Jungle Speed, ça doit...
Les Romains avaient truc des Romains.
Avaient César?
Ben oui. À une époque où vraiment les États-Unis existaient très peu. Hein.
Alors écoutez, on peut demander au juge de touche, mais là, moi, ma réponse est on l'appelait le salut de Bellamy, du nom de Francis Bellamy, un écrivain américain. Quand on faisait le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis, on faisait le geste du bras tendu dans les années 20. Puis on l'a remplacé par la main sur le cœur.
Mais je pense que ça se discute, mais infiniment. Mais bon, après.
Oui, mais malheureusement, on n'a pas le temps.
On peut vérifier avec le salut romain, mais. Mais écoutez, c'est la lutte finale, donc oui, vous savez. Oui. Mathieu Noël, la question est pour vous. Le mot canicula a donné canicule. Mais pendant l'Antiquité, cela désignait aussi une femme de petite vertu. D'où l'allusion à la chaleur. Vrai ou faux?
Non, j'en ai aucune idée. D'où ça peut partir, ça? Canicule, femme de petite vertu. Non, je dirais que c'est faux.
Bien vu. Ça voulait dire petite chienne.
Oui, en plus, Cani, ouais. Ça doit être le chien, non?
Oui, rien à voir, donc.
Non, rien à voir, on était très loin. Ouf.
Les astronomes de l'Antiquité ont donné ce nom à une étoile appartenant à la constellation du Grand Chien. Elle est considérée comme l'étoile de la chaleur. Donc, nous avons deux bonnes réponses.
Oui.
David, vous êtes éliminé.
Au revoir, David.
On sent qu'il y a un plaisir. Hein,
vous gagnez des encyclopédies.
Avoir le roi, déchu.
Le roi déchu. C'est le mec, c'est autoprogrammé roi, c'est la deuxième semaine.
Comme dirait Donald Trump, you're fine. Il nous reste Mathieu et Olivier. La question qui départage, la réponse la plus proche, remporte la lutte finale. Louis XIV avait un frère. On l'appelait monsieur frère du roi. Pour éviter qu'il devienne rivaux, on l'habillait avec des vêtements de fille pour lui ôter toute virilité. Bon, il s'est marié deux fois tout en étant homosexuel. Combien a-t-il eu d'enfants ?
Il a eu zéro enfant. Il n'en a pas eu.
Ah bah, c'est dommage pour les Orléans aujourd'hui, mais enfin bon.
Il en a eu... oui, mais là, il ne faut pas se tromper. Parce que, faut pas se tromper. Si je dis 12, forcément, écrit, il en a eu un. Il en a eu 3.
Bah, forcément, vous gagnez parce qu'il en a
pas
eu...
Pas forcément, parce qu'il aurait pu en avoir un seul.
Il en a eu 8.
Ah, bah voilà. Ah, voilà. J'étais très long. En fait, il en a eu beaucoup.
Les enfants en bas âge.
D'accord.
Donc, oui, parce qu'il y avait... À l'époque, on perdait beaucoup d'enfants, donc on en faisait...
Ça va me rappeler néanmoins le nom du vainqueur du quiz.
Mathieu Noël.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. C'était un bien beau numéro. On y a croisé, une fois n'est pas coutume, plusieurs enfants de cœur. Oui. Vous n'avez pas été enfant de cœur, vous, Stéphane? Parce que vous, là, pour le coup, vous aurez imaginé.
Vous voyez, et vous?
Ah bah non, moi non. Et je ne suis même pas baptisé. Alors,
non, mais voyez-vous... Non, j'ai pas la vocation tout de suite. J'ai senti à 12 ans que vous étiez attiré par d'autres choses.
Dès 12 ans, vous étiez attiré par d'autres choses. Ah, la littérature, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe demain, Stéphane, dans ce studio?
Oh, demain, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, bien sûr.
Comment s'appelle cette émission?
Alors, dans l'émission, déjà, on va vous retrouver. Oui. Et surtout, nos trois personnages, encore plus insatisfaits que vous.
Ah, c'est vrai.
Oui, on réunit d'éternels insatisfaits. Le peintre japonais Katsushika Hokusai, le chanteur Nino Ferrer.
Et lui aussi est un éternel insatisfait, mais Pep Guardiola devrait se satisfaire d'être vivant, ce qui n'est pas le cas de vos personnages, je crois.
Pep Guardiola, vous dites?
Oui, l'entraîneur de Manchester City, ça vous satisfait pas?
Oh si, moi, tout me va.
Hâte de voir votre tête quand je vais vous parler de son schéma fétiche, le 3-5-2 avec un faux neuf décrochant. Voilà ce regard-là. Allez, à demain les amis.
À demain Mathieu, à demain les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.